Radio Okapi.
Radio Okapi.
Étoile.
Étoile.
Bon après-midi à tous et merci d'être avec nous sur les antennes de Radio Capi. Bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Étoile qui va vous faire justement découvrir une étoile. Jeune homme de 40 ans, marié, père de 5 enfants. Il s'appelle Papi Maotela. Vous avez principalement évolué dans deux secteurs, celui des brasseries et des télécoms. Je vous dis d'abord bonjour avant de commencer.
Bonjour madame.
Alors vous êtes consultant en vente, marketing et distribution au sein d'une structure que vous avez vous-même créée. Vous êtes également analyste économique. Vous avez un parcours, on va dire, élogieux et assez atypique. Vous avez eu la force, la détermination et le courage de nous parler de votre histoire. Vous avez connu une enfance difficile, non pas parce que vous étiez un enfant difficile, mais parce que vous avez perdu vos parents, d'abord votre mère, ensuite votre père, et vous avez eu pas mal de difficultés pour poursuivre un cursus scolaire d'abord normal, parce que votre mère est morte quand vous étiez plus jeune, et ensuite votre père quand vous étiez à la porte d'entrée de l'université. Dites-nous.
C'est vraiment très difficile de pouvoir parler de ma propre vie parce que ça m'attriste beaucoup. Je me pose toujours des questions. Pourquoi j'ai perdu mes parents aussitôt? Plusieurs années par après, je me suis dit, est-ce que le fait que j'ai perdu mes parents, ça n'a pas été un leitmotiv ou un déclic pour moi pouvoir faire des choses que je suis arrivé à ce jour? Je perdis ma mère, j'avais 10 ans et demi. Mais ce qui est un peu désolant pour moi, je perds mes parents au moment où j'ai réellement besoin.
Quand vous accomplissez quelque chose.
Exactement, parce que mon père va décéder quelques mois avant que j'aie mon diplôme d'état. Et vous devez savoir que mon papa a fait l'école royale militaire. Malheureusement pour lui, en 1978, il y a eu un procès qu'on appelle le procès des terroristes. Des gens qui voulaient démettre le président Mobutu en 1978. Et Mobutu, mon père était parmi le groupe de ces jeunes gens. Mon père a été arrêté, il a tout perdu, il a fait la prison et notre vie a réellement basculé dans la pauvreté extrême. On a réellement souffert, mon père, il a beaucoup souffert. Mais je voyais à mon père un homme qui a accepté sa vie, vraiment qui a accepté sa vie.
Et j'ai l'impression que c'est ce que vous-même vous avez fait, papy.
Voilà, c'est ce que je peux faire. Parce que moi, je vis mon papa qui a fait l'école royale militaire, vendre des cigarettes et de pain au marché de Yolo. Et il pourrait même pas payer son loyer parce que nous habitions chez notre grand-père. Il y avait même pas une porte là où nous habitions parce que le soir je devais prendre mettre du bois et essayer de caler pour que des voleurs ne rentrent pas. Donc c'était une pauvreté extrêmement humiliante. Et mon père, il faisait tout pour que nous allions à l'école. Et puis un jour, dans cette difficulté, mon père va trouver un travail à l'OTCZ. Donc on l'a pris comme receveur et puis il faisait différemment son travail et son chef l'observait un jour. Son frère lui pose la question, monsieur Montella, qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Mon père a dit, je n'ai pas étudié. Il dit, tu es sûr, je n'ai pas étudié.
Alors qu'il avait fait l'école royale militaire.
Alors qu'il a fait l'école royale militaire, qui était officier même de l'armée, il n'avait rien dit. Et puis son chef l'a très bien observé, il a dit, monsieur Montella, vous avez étudié? Il dit, non, je n'ai pas étudié. Avant de confirmer mon père, après sa période d'essai, il dit, si vous ne me dites pas la vérité, je ne veux pas vous prendre. Et mon père va lui dire, oui, j'ai étudié, j'ai été officier de l'armée, j'ai été à l'école royale militaire. Son chef dit, tu es receveur? Il dit, oui, c'est pas un problème, c'est ma vie. Alors son chef l'amène directement chez les DG. Il dit, non, tu peux plus être receveur.
Mais vous aviez quel âge pour connaître toutes ces histoires? À l'époque, vous avez quel âge?
À l'époque, j'ai 10 ans. Hein.
Ils vous racontaient ça?
Je voyais ça moi-même. À 10 ans, j'étais déjà en première. Un petit bonhomme, j'étais déjà en première secondaire, j'étais au collège. Bon, je connaissais ça. Alors, il dit, non, on va te trouver un autre travail. Et puis, on lui a trouvé
un travail plus convenable.
Convenable. Je pense qu'ils l'ont envoyé même en formation à l'Institut des formations internationales de transport à Bruxelles. Et quand mon père est revenu, là, c'est la vie à recommencer. Et puis, et malheureusement, cette année-là, ma mère est décédée. Mon père était extrêmement triste. Et puis, 7 ans plus tard, mon père est mort. Et une autre histoire va commencer. Nous devons retourner à Massina, chez mon grand-père. Alors, il m'est resté quelques mois pour terminer mes études secondaires. Mes tantes, mes oncles se battaient pour me payer les transports. Puis, il y a un ami à mon père. Il m'a ouvert sa maison. Il m'a donné cette chance-là. Et puis, je suis allé vivre chez lui. Et j'ai terminé mes études. secondaire.
Grâce donc à lui.
Grâce à lui.
Alors, papy, si vous voulez bien, on va marquer une petite pause. J'ai quelqu'un pour vous en ligne, hein, dans l'appel depuis les États-Unis. Allô, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Eva Kamwanga, qui est un grand ami à vous.
Oh, waouh.
Oui, c'est
vraiment. Alors, je vous sors du lit, hein, je suis désolée. Vous êtes en train d'aller au travail.
Triste.
Oh.
Il n'y a pas de problème.
Je suis désolée, papy, pour l'émotion que je crée en vous. Et même là, moi-même, je suis un peu émue. On vous prend en ligne, donc, pour que vous nous disiez que vous puissiez porter un témoignage, justement, sur lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa personnalité?
Papy Maroté, là, c'est un frère pour moi, et un frère. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de faire un témoignage pour lui aujourd'hui. C'est quelqu'un d'une très grande personnalité, papy aime la droiture, papy aime la vérité, papy est direct. Bien mettre avec lui, il faut respecter ses principes. Donc c'est quelqu'un, il n'y a pas de complexe. C'est quelqu'un d'une très grande personnalité.
Vous avez habité avec lui, vous le connaissez, vous le définissez comme étant un homme de principe, il n'a pas de complexe, c'est quelqu'un qui aime la vérité, un homme de la droiture. Ça, c'était pour sa personnalité. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Je sens que c'est un homme, effectivement, qui a les qualités que vous avez citées, ici. Et, un jeune homme de 40 ans qui a connu, comme lui-même le dit, ce sont ses mots, la misère la plus extrême, mais qui a toujours voulu la détermination. Qu'est-ce qui peut vous inspirer, vous?
Et ça, dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Donc, on a traversé beaucoup de choses, mais on se disait qu'on ne pouvait rien lâcher. On s'est battu comme des hommes. Aujourd'hui, on n'est pas arrivé au sommet, mais on continue à se battre. Et donc, on continue avec le même principe. Et ça va.
Merci bien. Je vais juste demander à papy, maintenant que ça va un peu mieux, s'il a quelque chose à vous dire, et puis on va vous laisser partir. Papy?
Ok, Eva, merci pour ton témoignage. Je te rappelle, toi et moi, on aimait Tupac, et on allait jouer au basket, mais on ne pouvait pas s'acheter des cassettes de Tupac parce qu'on était pauvres. Et tu te rappelles aussi, quand on allait jouer au basket, on voyait nos amis avec des très jolies chaussures. Nous, on ne pourrait pas en avoir. Ça nous dérangeait beaucoup à se poser des questions, toi et moi, mais pourquoi nous sommes pauvres? Je pense que toi et moi, on s'est fait un vœu, s'est dit, nous aussi un jour, on va s'acheter des baskets. Nous aussi un jour, on va acheter des baskets à nos enfants. Nous aussi, nos enfants ne connaîtront jamais la pauvreté que nous avons connue. Et je pense, en étant enfant, c'est ces rêves-là, c'est ce qui commence toujours à me pousser d'aller de l'avant. Je n'ai pas encore fait grand chose, mais je pense qu'on va y arriver. Et j'aimerais aussi te remercier. Tu as été parmi les personnes qui ont été là, qui m'ont continué à me pousser. J'ai du mal pour terminer mes études, mais tu me disais toujours, ça va aller. La vie, ce n'est que ça. Nous n'étions pas les premières personnes à souffrir sur la terre. Certainement, il y a des gens qui ont souffert plus que nous, mais Dieu nous a aidés. On a travaillé durement, et voilà. Quelques années plus tard, on est en mesure d'élever des familles, de donner beaucoup plus de chance à nos enfants que nous nous avions pas eu. Et je tiens de tout cœur à te dire vraiment merci beaucoup. Ça a été une belle surprise pour moi et vraiment que Dieu te bénisse.
Merci beaucoup à vous, merci monsieur beaucoup. Eva Kamwanga. Malheureusement, la liaison téléphonique n'est pas bonne, mais je crois qu'on a pratiquement eu l'essentiel. Et bonne journée là-bas aux États-Unis. Papy Maotela, je suis désolée d'avoir suscité autant d'émotions en vous. Je le vois sur votre visage. Ça nous arrive à tous de pleurer à un moment donné parce qu'on se rappelle des choses qui soit nous ont fait rire, pleurer ou fait mal. Juste désolée d'avoir créé ou suscité cette émotion en vous. On peut continuer l'émission?
On peut y aller, s'il vous plaît, madame.
D'accord. Donc, on parlait de votre père, de sa mort. Il est décédé quand vous vous apprêtiez à décrocher votre diplôme d'État. Vous êtes resté quand même 3 ans à la maison, sans rien pouvoir faire, parce qu'il n'y avait juste pas les moyens pour pouvoir continuer à aller à l'université.
Je commence à être répétiteur dans certaines familles. Alors, pendant ces laps de temps, et puis... j'apprends, je vais dans une formation pour classe d'enfants. Vous voyez, dans des écoles, l'école Catherine Cédé, les écoles de dimanche. Dans notre communauté Baraï, on appelle des classes d'enfants. Alors je me suis dit, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et chaque week-end, j'allais enseigner les enfants.
Oui.
C'était du bénévolat pour moi, mais quand même, ça me permettait de faire du travail communautaire.
Oui.
Et pendant ces 3 ans aussi, j'ai commencé aussi à apprendre l'anglais dans un centre à Massina. Et dans ces centres-là, je commence aussi à enseigner l'anglais. Donc je commence à gagner
un peu de sous.
Un peu de sous juste pour acheter mon savon. Et puis c'est là où je vais rencontrer
une amie.
Je m'intéresse à elle et puis on est devenus amis, vraiment des super amis. Alors elle, au moment que je l'ai rencontrée, elle devait avoir son diplôme d'état. Moi j'avais déjà mon diplôme d'état, j'étais à la maison. Il me pose la question, tu fais quoi? J'ai dit, je fais rien. Pourquoi tu vas pas à l'université? J'ai dit, je n'ai pas de moyens. Il me dit, monsieur, si tu vas pas à l'université, je pense que notre relation va s'arrêter. J'ai eu un coup. J'ai dit, ok, je vais aller à l'université. Bon, le petit job que je faisais à côté, ça pourrait faire. Un autre concours de circonstances, c'est au moment où un de mes oncles qui est arrivé, qui m'avait que je t'étudiais pas, il m'a dit, non, on doit se battre pour que tu ailles à l'université. Il va me donner 10 nouveaux AIE, je vais aller au campus, je vais acheter mon formulaire, il va m'aider à remplir le formulaire. Ça, on sait pas comment on va payer les minervas, là, tout
oui,
ça.
Oui, mais bon, on s'y lance quand même en se disant.
On s'est dit, bon, on va y aller quand même.
Qui ne tente rien à
qui
rien.
Qui ne tente rien. Et puis, j'ai dit, bon, je vais faire la politique ou je vais faire l'économie mathématique. C'était mon deuxième choix. Alors, après, mon nom est sorti en économie, mais je devais payer les minervas. Alors, je sais pas de quoi payer les minervas. Et puis, je me souviens, mon père, avant de mourir, il m'a dit, voilà, moi, je vais mourir. Je suis désolé. J'ai travaillé pour l'État congolais. Je n'ai pas gagné de l'argent pour te laisser. Mais je te laisse mon nom et ma bibliothèque. Il dit, si tu es honnête, intègre, tu respectes les gens, ce nom va t'ouvrir les portes.
Son patronyme, donc.
Son patronyme. Mm-hmm. Et puis, les ouvrages, ça va t'ouvrir l'esprit. Je me souviens que mon père avait aussi un de ses meilleurs amis qui était officier dans l'armée.
Oui.
Et puis, j'apprends qu'il est à Kinshasa. Donc, je vais là-bas. Il va sortir à l'époque 500 nouveaux aïe. À l'époque, c'était 1,3$ nouveaux aïeux. Donc, mon minerval, c'était 100$ à l'époque. Il m'a dit, les 300 ici, tu payes les minervals. Les 200 ici, tu achètes tes besoins, tes cahiers, tout ça pour écrire.
Syllabus, tout ça en prenant.
Oui. Ouais. Et c'est comme ça que je paye mon minerval, je paye mes syllabus et je débite ma formation campus. Et je continue mes études.
Mais papy Maotela, c'est assez, genre, je ne sais pas si je dois dire exceptionnel ou quoi. Donc, vous n'avez pas d'argent du tout. Votre famille n'a pas d'argent du tout pour payer vos études. Donc, en première année, c'est l'ami de votre père. En deuxième année, ce sont les parents de votre petite amie. En troisième année, ça va être un professeur qui va accepter de payer votre minerval. Vous-même, dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? Je suis chanceux, je suis bien né. Qu'est-ce que vous vous dites en ce moment-là?
Je sais pas expliquer. Au campus, on avait l'habitude de nous chasser, hein. Quand vous payez pas, on chassait. Un jour, même un professeur a dit, quittez ici, les enfants des pauvres. Vous pensez qu'une université est faite de pauvres? J'ai commencé directement à pleurer devant ces professeurs. Alors, je me suis dit ces jours-là, j'ai dit, Dieu, je vais accepter l'humiliation. Tout ce que les gens vont me faire, je vais accepter jusqu'à ce que je gagne ma vie. Parce que moi, quand j'étudiais au campus, je ne voulais pas que les gens sachent que j'étais orphelin de père et de mère.
Mais pour vous, c'était quoi? C'est vous refusez de raconter votre histoire pour éviter quoi? L'humiliation?
Non.
C'était pas nécessaire que les gens.
Non. Je ne voulais pas que les gens m'aiment par pitié.
Oui, ça vous me l'avez dit.
Je voulais à ce que les gens m'apprécient étant qu'une personne. Pas qu'une personne m'apprécie parce que il a perdu des parents, il est dans la misère. Je ne sais pas faire des amitiés, des façades. Je vais être authentique, je vais être vrai dans ma vie. Et moi, je devais me battre, arriver jusqu'au sommet, pour donner un exemple à d'autres personnes. Il y a aussi des gens qui ont perdu des parents, il y a des gens qui souffrent, il y a même des gens qui ont souffert plus que moi. Au campus, on me chassait quasiment tous les jours. Mais tous les jours, j'allais. Tous les jours, j'allais. Et même.
Parfois à pied, hein.
Parfois à pied. Et même au campus, il y a certains de mes amis qui m'appelaient Spider-Man. Tu sais pourquoi ils m'appelaient Spider-Man?
Non.
Donc, quand vous allez à la faculté des sciences économiques, à l'entrée, il y a des barrières. On ferme des barrières pour que tu n'entres pas. Alors, derrière la faculté, il y a des claustras.
Exact.
Il y a des claustras oui. Et puis il y a une entrée vers la fenêtre pour rentrer dans l'auditoire. Alors, comme on fermait des claustras et moi je voulais étudier, alors je grimpais dans les claustras. Et quand les gens voyaient ça, les gens rigolaient, Spider-Man. Je n'avais pas honte de mon histoire.
Vous quittiez Massina jusqu'au campus à pied
souvent,
parfois, ou comme dans la folie des étudiants, ça c'est gentiment que je le dis, vous réquisitionnez
des bus et des camions qu'on appelait ONG.
Oui, ah. Mais tout ça c'est parce que vous dites hein, que pour vous, il fallait absolument aller étudier, décrocher votre diplôme.
Pour moi, j'étais sûr et certain que si je terminais mes études, j'aurais une ouverture.
Alors, pour avancer plus rapidement, papy, Quand vous décrochez finalement votre diplôme, qu'est-ce que vous vous dites? Ça y est, j'ai accompli le gros.
Je vais revenir 2 semaines avant de présenter mon travail de fin de titre. Je travaille sur un modèle là, qu'on appelle modèle logique, c'est un modèle économétrique. Les gens qui connaissent ça, la statistique et l'économétrie vont comprendre. J'ai essayé d'actionner mon modèle n'a pas marché. Je me disais, il y a quelque chose, il y a un couac. Je rentre dans ma chambre, je commence à faire la fièvre, donc je suis extrêmement stressé toute la journée. Alors, la nuit, je suis en train de
trembler.
Trembler, tout ça. Il m'amène à... aux cliniques universitaires, on me soigne, tout ça. Et puis, le médecin dit qu'il est hyper stressé, il doit arrêter toute lecture, tout ce qu'il est en train de faire pendant 3-4 semaines, et puis il va revenir. Et moi, dans 2 semaines, je dois présenter mon travail. Alors, moi, comme je ne crois pas beaucoup, je sors de l'hôpital 2 jours après.
Ça, c'est contre l'avis du médecin.
Ça, c'est contre l'avis du médecin. Mmh. Je fais des recherches. Je tombe sur 2 statisticiens français qui ont écrit des travaux sur ces modèles. Et ils ont bien expliqué les modèles. Et puis, je les ai écrits un email. Et un des statisticiens me répond, il me dit, si tu as eu tel problème, le problème, c'est dans tes données. Il faut regarder comment tu as analysé tes données. Alors, je réanalyse mes données et je trouve que le modèle était bon. Et j'ai terminé et puis je suis allé présenter mon travail. À la fin, j'avais beaucoup pleuré. J'étais extrêmement content. J'ai dit « Waouh, je suis arrivé !»
Nous recevons aujourd'hui M. Papi Maotela, consultant en vente, marketing et distribution. Il est également analyste économique. Alors, M. Maotela, deuxième partie de cette émission. En première partie, on a parlé de votre vie d'étudiant, de votre jeune enfance, avec notamment la perte d'abord de votre mère et puis après celle de votre père, toutes les difficultés ou les souffrances que vous avez connues à l'université où il fallait, ce sont des tierces personnes. On peut même les appeler des personnes de bonne volonté qui ont payé donc vos études. Universitaires. Finalement, vous décrochez votre licence en économie mathématique. Premier test d'embauche, hein. Vous êtes ici à Kinshasa, dans une brasserie de la place. Vous pensez quand même que pour tout le parcours, un salaire de $45, ça ne vaut pas la peine.
Lorsqu'on me donne un projet de contrat, je ne lis pas les projets de contrat.
On ne lit pas les clauses. Hein.
C'est ce qui m'intéresse.
On va à la dernière page.
Je vois mon salaire 70 000 francs congolais. Je dis, mon Dieu. Tous les parcours que moi j'ai fait pour 76 000. Alors je prends mon contrat. J'avais une maman de mes amis. Je vais le voir. J'ai gangou. J'arrive là-bas. J'ai dit j'ai eu un travail. Elle était très contente. Elle a commencé à m'appeler. Elle dit ah, Dieu t'a béni. J'ai dit mais 70 000 francs. J'ai dit. Il dit papy, mieux vaut ça que rien. Et je signe mon contrat. Je commence dans une brasserie à Kinshasa. Et dans cette brasserie, je tombe sur un très bon monsieur qui m'a beaucoup appris, m'a beaucoup aimé. Il m'a vraiment fait travailler.
C'était pour quel poste?
Là, j'étais délégué commercial.
Délégué commercial.
J'étais délégué commercial. Et puis, j'ai commencé d'abord à pied. Mon secteur, c'était Libakine. Libakine, c'est Lingwala, Barumbu, Kinshasa. Donc, je gérais ces secteurs-là.
En quoi consistait votre travail? C'est quoi d'aller...
Mon travail consistait premièrement d'identifier des opportunités pour ma brasserie.
Oui.
De visiter les clients existants, de créer de nouveaux points de vente et de disponibiliser la boisson et tout ce qui est produit.
Vous commencez très tôt, vous m'avez dit 5h du matin.
On commençait extrêmement très tôt. On commençait très tôt. Vous ne savez pas à quelle heure vous allez terminer. Souvent, vous terminez très tard. Et souvent, lorsqu'il y a une opportunité dans votre marché, vous devez être là. Admettez que, par exemple, on veut vous piquer un bar par la concurrence. Vous devez...
Être aussitôt
informer vos autorités. Et si vos autorités apprenaient qu'on a piqué un bar que vous n'étiez pas là, vous êtes viré. Donc il fallait vraiment être aux aguets. Voilà, c'est ce genre de travail que j'ai appris à faire le commercial.
Et ouais. Puis se sont succédés d'autres postes.
Ouais. Ce qui est arrivé, mon chef qui était dans cette brasserie est allé dans un autre télécom. Il avait besoin d'équipe.
Et donc,
la chance a souri, je suis pas.
Alors, Papi Maotela, donc vous quittez votre premier employeur, vous allez dans les télécoms et puis vous retournez dans une autre brasserie et puis encore les télécoms. Pour parler brièvement de cette expérience dans les télécommunications, vous avez fait une grande partie de l'intérieur du pays, Mbujimayi, Mweneditu, des zones parfois difficiles. Là, c'est un moment où vous fondez déjà votre famille et puis après ça, vous vivez une autre expérience à l'étranger pour le compte d'une autre brasserie. Vous faites le Cameroun, le Kenya, l'Afrique du Sud. Quelle est l'expérience que vous retenez de votre passage là-bas?
Je considère le Cameroun comme ma seconde patrie.
Vous y êtes resté combien de temps, pardon?
Pendant les 3 ans, je suis allé, je crois, une dizaine de fois au Cameroun.
D'accord.
je suis arrivé là-bas, les gens m'ont vraiment aimé. Et j'ai beaucoup d'amis camerounais aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, si j'arrive à Douala, je ne peux pas manquer un logement. Je ne peux pas. Il y a aussi des gens qui ont été extrêmement directs envers moi. Moi, j'adore les gens qui sont directs. Et les Camerounais sont directs. Et ça a été facile pour moi de travailler avec eux. Parce qu'ils sont directs. Ils disent la vérité comme ça. Malheureusement, dans notre pays, les gens aiment être caressés dans le sens du poil. Ils ne veulent pas la vérité. Bon, ça, à chacun de voir.
Mais papy, papy Mantella, pardon, dans tout ce cheminement-là, qu'est-ce que vous vous dites? Ça y est, je laisse loin derrière moi toute mon histoire, dans le sens où, ouf, maintenant, ça va, je respire. Maintenant, je suis dans une phase, on va dire, d'accomplissement de mon rêve. De réussite?
Non.
Pas encore?
Pas encore. J'ai un grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est de réfectionner mon école primaire, là où j'ai étudié. Je suis en train de travailler dessus. Je pense que le jour que je vais terminer ce projet, je penserai que c'est ce jour-là que j'ai réalisé le plus grand rêve. Parce que mon rêve, je l'ai eu dans cette école-là.
C'était lequel?
École primaire Bambou 1. J'ai rencontré enseignants à Massina. J'ai rencontré des enseignants qui m'ont vraiment aider à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et dernièrement, j'étais allé discuter avec la directrice avant que j'aille étudier aux États-Unis pour voir combien ça me coûterait pour essayer de les aider. Et je suis en train de me battre avec mes maigres économies pour arriver à faire ça. Et je pense que je ne peux pas quitter cette terre si je ne le fais pas ça. Et si je quittais cette terre et ce que je ne réalise pas, je serais un homme le plus malheureux. Je n'ai pas encore réalisé encore beaucoup de choses. Je veux être au service de ma nation. Je veux vraiment donner ce que je gagnerai à la communauté. Je n'ai pas de gros rêve de devenir riche. Non, ce n'est pas un grand rêve pour devenir milliardaire, non. J'aimerais être aux besoins de la communauté. J'aimerais vraiment aider les gens. C'est ça le plus grand rêve que j'ai. Voilà la raison pour laquelle je...
Que vous vivez réellement.
Je vis réellement. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas être malhonnête. Je travaille avec des gens qui m'ont dit « Tu es compliqué, tout le monde vole, toi tu ne voles pas. » C'est toujours comme ça, ils ne peuvent pas comprendre. Chacun a sa vie. Moi, je me suis inscrit. Je préfère mourir pauvre, mais je ne peux pas détruire des vies.
Petit retour en arrière, papy. Vous êtes dans la deuxième société de télécommunication où vous travaillez pendant 4 ans. Mmh. Finalement, la société décide de réduire ses effectifs. Vous recevez donc votre décompte final. Une fois que vous avez l'argent, vous vous dites « je dois étudier ». Vous allez aux États-Unis.
Oui, alors, mon entreprise prend la décision de pouvoir réduire les effectifs. Moi, je prends les devants, je m'inscris. J'avais déjà des économies que je faisais avant et puis je discute avec eux et puis j'ai mon enveloppe, j'ai mon argent, je mets en poche. Je discute avec ma femme, je dis il est temps pour moi de pouvoir aller faire aussi ma formation. Donc je vais étudier à Georgia dans une petite université coréenne. Au début c'est très très difficile parce que l'accent américain est différent de l'accent que nous avons ici. Alors j'ai commencé à aller sur YouTube, écouter des émissions
en anglais américain oui.
Et puis je sortais, j'allais dans les espaces publics, là où les gens parlaient, puis j'essayais de capter. 2-3 mois plus tard, j'ai développé les sens, j'ai commencé à tout capter, et ça a devenu facile pour moi. Et normalement, je devais terminer mes études pour 2 ans. Alors, je me suis dit, je peux le terminer en moins de 2 ans. Alors, j'ai pris, parce qu'aux États-Unis, les systèmes, les étudiants choisissent des cours, je prenais 4 cours par trimestre. Et j'ai terminé, j'ai fait 3 trimestres, au lieu de faire 2 ans. À la fin, j'ai été le meilleur étudiant de ma promotion, le meilleur étudiant de l'université, j'ai eu une bourse. Voilà.
Vous avez décroché votre diplôme en gestion des affaires, mais avant le départ des États-Unis, vous avez créé donc justement cette structure qui s'appelle Anis and Anissa, dans laquelle vous êtes consultant en vente, marketing et distribution. Vous dites pour vous l'accomplissement, l'objectif c'est pas de devenir riche.
Non nécessairement. Le travail anoblit l'homme. Il faut que vous arriviez à travailler pour que vous contribuiez à la société. Je crée une structure pour être indépendant. Je connais la pauvreté, les gens m'ont aidé. Aujourd'hui, en créant une structure, j'aide les autres. Lorsque vous recevez de la société, vous devez redonner à la société. C'est ça ma philosophie de vie. J'aimerais que ma famille et mes enfants aient des accès que moi, je n'ai pas pu avoir. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette structure. Et dans cette structure-là, c'est une petite structure, je fais ça calmement. Un jour, je vais multiplier des emplois et c'est comme ça que j'aide mon pays à évoluer. Je fais moi-même mes propres analyses, j'utilise des données secondaires, j'essaie de discuter avec des gens à gauche, à droite. Quand les revenus vont augmenter, on va commencer à voir. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin de beaucoup plus de gens, mais il y a des petits travaux que j'ai fait avec d'autres personnes, j'ai emploi, mais c'est pas un travail régulier, c'est juste de travailler des travaux
qui viennent de manière parfois ponctuelle. Alors Papi Maotela, pour vous qui avez connu la souffrance, la misère, parfois l'humiliation, vous avez grandi dans le quartier périphérique de Massina, vous avez étudié au campus, ça veut dire vous avez été réellement au contact des difficultés que rencontrent les étudiants congolais, en particulier la jeunesse congolaise en général. Est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que les Congolais sont paresseux?
Alors, il n'y a pas une étude statistique pour pouvoir appuyer dire que les Congolais sont paresseux. Je parle de ma propre histoire. Les Congolais ne sont pas paresseux. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas des autorités qui sont conscientes de pouvoir développer ce pays. C'est ça le problème. Les conseils que je donne toujours à chaque jeune homme que je parle pour dire, il ne faut pas regarder ta pauvreté. La pauvreté ne peut pas être une barrière pour toi. Si tu veux aller au sommet, tu dois te dire toi-même, je vais y arriver. Ça commence dans la tête. Et c'est aujourd'hui la jeunesse congolaise doit comprendre que, oui, nous sommes pauvres, mais la majorité des riches sur cette terre ne viennent que de familles pauvres. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est un pouvoir de réflexion. Ça te pousse. Tu réfléchis pour trouver des moyens à ta vie. Tu ne peux pas développer un pays sans le petit moyen d'entreprise. Parce que si un jeune Congolais lambda comme moi crée une structure où il emploie deux personnes, admettez que 5 millions de Congolais avaient de petites structures, on aurait combien? On aurait créé 10 millions d'emplois. Donc il faut qu'on arrive à réfléchir. On n'a pas besoin de créer de grosses structures comme la Gécamine pour avoir 10 000 emplois, non. Commençons par des petites unités de une personne, deux, trois personnes. C'est comme ça qu'on va développer les pays. Et si nous attendions, parce que le problème, c'est que je vois aussi dans la jeunesse congolaise, les gens sont omnibilés à travailler à Kinshasa. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens, quand tu dis, est-ce que tu peux aller travailler à Luputa? Il va te dire, ah, Kunizamboka, non, qui était.
Parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Mais... Et quand on est habitué dans ce semblant de confort dans la capitale, on se dit, je n'ai pas ma place n'est pas là-bas. Mais c'est peut-être ça.
Madame, vous allez rester à Kinshasa, affamé, tant que vous pourrez trouver votre pain à Bounia, ou à Bosobolo, ou à Zongo. Non, un homme ne réfléchit pas comme ça. Moi, je suis allé travailler au Kasaï. Je suis allé trouver la plus belle personne de ma vie. J'ai épousé une femme qui a fait démontrer que je suis aujourd'hui. Il m'a donné 5 beaux enfants. Je suis un homme heureux, comblé. Les rêves est permis à tout le monde. Il faut seulement s'accrocher à la vie. Je te dis, je vais y arriver. Et tu ne regardes pas les autres. La vie est partout. Moi, je suis fier. Moi, si quelqu'un me dit, Monsieur Maotela, est-ce que tu peux venir avec moi à Ouatcha? Je dis oui. Tu peux venir avec moi à Kassine? Je dis oui. S'il y a des gens qui vivent là-bas, je vais aller. Alors, les gens doivent arrêter de penser que la vie, c'est à Kinshasa. 80 millions de Congolais, c'est 80 millions d'opportunités.
Ce pays est beau et pas que de nom, j'ai envie de rajouter. Merci beaucoup à vous, Papi Maotela. Vous étiez notre invité pour cette émission Étoile. Je rappelle que vous êtes consultant en vente, marketing et distribution, également analyste économique. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci à Berry Franklin Luchaka, Thérèse Konkou et François Kadima qui m'ont aidé à préparer cette émission. Était au micro, Nana Bolodjo Ayalemoto. On se retrouve au prochain numéro.